France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, vous allez avoir le plaisir de retrouver un pianiste et compositeur que vous connaissez bien si vous écoutez France Inter. J'ai le plaisir d'accueillir et de retrouver André Manoukian. Je crois qu'il est là. Bonjour André Manoukian.
Bonjour Charline Lanonecker.
Avec votre casque de moto?
Non, mais je fais du vélo. Je fais du vélo, mais j'ai un casque de moto.
Vous avez toujours le vélo pliable?
Oui. Enfin non, maintenant je prends des vélos électriques.
Ah, très bien.
Oui.
Vous êtes prudent?
Je suis prudent. Mais je prends des vélos électriques parce que si tu prends un vélo normal, tu te fais doubler par des mémés et ça t'énerve. Et en plus de ça, c'est dangereux.
Ouais.
Il faut avoir la même vitesse que les autres.
C'est un petit conseil. C'est déjà une émission de service public grâce à André Manoukian.
Exactement, c'est comme quand vous faites du ski foncé.
Charlie Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
André Manoukian. Oh, par quoi on commence?
Je sais même plus, Charline.
Bah, je vous fais une proposition. On va commencer par parler de votre très bel album qui s'intitule La Sultane. C'est le surnom qu'a donné votre mère à votre sœur. Mmh. Et donc vous, elle vous appelait comment?
Mon pacha.
Oh.
C'est joli, hein? Mon prince, ma princesse. C'était un amour débordant qui pouvait être un peu casse-couille. Moi, je rêvais d'une mère suédoise, un peu protestante. Parce que la mienne, c'était tout en... Oh, mais non, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a eu trop d'amour quand on était petit? Non. Bah, donc voilà. Mais c'était quand même beaucoup.
Un peu à la Romain Gary, La Promesse de l'Aube.
Ah ouais,
un
sûrement.
Peu comme ça.
Un peu comme ça, mais encore en plus démonstratif. Et ce qui était drôle, c'est que je sentais quand même que derrière cet amour inconditionnel et un peu envahissant, il y avait une angoisse, en fait. On va dire de toutes les mères arméniennes qui ont tout entendu des... Ma mère n'a pas vécu le génocide, mais elle a tellement entendu d'histoires horribles de femmes qui abandonnent leurs bébés dans le désert parce qu'elles peuvent plus les nourrir, que je sentais qu'il y avait... C'est après, hein, c'est bien après que j'ai senti que derrière cet amour débordant, il y avait aussi quelque chose de genre « vous n'aurez pas mes enfants, ils sont à moi, ils sont à moi ». Ouais, une mère arménienne, c'est un peu comme une mère juive, mais en pire, on va dire.
Ah bon ? Il y a une hiérarchie parce que le pacha, c'est pas le sultan. Mais votre sœur, c'est la sultane?
Ouais, c'est vrai, bien noté. Ah, j'avais pas fait gaffe. Alors c'est ça qui est génial en Orient, c'est qu'un mot prend des significations incroyables. C'est en même temps le maximum de la beauté, le maximum de la magnificence. Et en plus de ça, alors, ce qui m'a aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé cet album comme ça, c'est que je me suis rendu compte tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un mot turc. Tous les Arméniens de la diaspora mondiale, on va dire, tous ceux qui ont été dispersés, parlaient tous le turc. C'était, j'allais dire, c'était... Une fois, il y a une émission qui m'a appelé, mais ils m'ont dit, on va faire un service public, on va faire un pays sur les origines des gens un peu célèbres, on va vous emmener en Arménie. Alors, j'aurais dit, hé les gars, moi, c'est pas l'Arménie, c'est... Mes grands-parents viennent de Turquie. Il y avait des villes turques où il y avait 100 000 Arméniens. Ils avaient leur quartier, leurs églises, leurs cathédrales, leurs universités, leurs écoles. Et ils vivaient en parfaite entente. Ils ont vécu pendant beaucoup plus longtemps en harmonie, y compris en ayant des hautes responsabilités. Il y avait un pacha, un gouverneur d'Égypte, qui était arménien, qui s'appelait Nubar Pacha pour l'Empire Ottoman. Ils étaient très souvent conseillés parce que, comme ils parlaient la langue des chrétiens, pour un turc musulman, c'était pas bien d'apprendre la langue des infidèles. Donc, mais par contre, il fallait bien des traducteurs pour les traités de paix, pour les traités commerciaux, etc. Donc, c'était les chrétiens qui s'y collaient, les arméniens ou les grecs de l'Empire Ottoman. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de, aujourd'hui, c'est plutôt de mettre le doigt sur ce qui rapproche que sur ce qui sépare. Parce que pour ce qui est de ce qui sépare, on a des grands professionnels qui sont à l'œuvre.
Parlons de musique alors. Les musiques de votre enfance, vous dites souvent que votre père écoutait Jean-Sébastien Bach et votre mère Sheila. Dans la tête, le featuring Jean-Seb Chella, ça donne quoi ?
Ah, mais ça, c'est une idée géniale. Jouer les rois mages en faisant un contrepoint à la Jean-Seb avec quatre fugues et... Ah ouais, ouais, ouais. Fugue sur...
C'est dans vos cordes, ça, normalement.
Oui, 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 ça peut être possible. Tout est possible avec Jean-Seb.
Et la musique traditionnelle arménienne, c'est plutôt vos grands-parents, votre grand-mère qui vous a un peu initié ? Comment vous êtes allé rechercher ? Parce que ça fait plusieurs albums, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que vous explorez, que vous arrivez enfin à explorer ces racines arméniennes en musique. Il y a quelque chose qui s'est débloqué chez vous, on va en parler un peu tout à l'heure. Mais alors, où est-ce que vous puisez ça ?
C'est un hasard total, parce que personne n'écoutait cette musique à la maison. Maintenant, ça date d'une quinzaine d'années. Une réalisatrice qui faisait un documentaire qui s'appelait « Arménie, autre visage d'une diaspora ». Elle m'a demandé de venir en témoin, mais il y avait d'autres témoins prestigieux, Aznavour, Agassi, Michel Legrand, qui est arménien par sa mère, d'où les gros sourcils. Et je me suis dit « bon, allons-y ». Me voilà ouvrant la porte d'un hôtel. Elle faisait ses interviews dans un hôtel. C'est bien plus chic ici, je dois dire.
Dans ce bistrot.
Charline, mais ouais. Première question, ça vous fait quoi d'être arménien ? Je la regarde, la meuf, je dis, mais de quoi elle me parle, celle-là ? C'est la première fois qu'on me posait une question pareille. Franchement, on me l'aurait posé, cette question, dans ma jeunesse. Ça aurait déclenché, en numéro un grand éclat de rire de ma part. Numéro deux, mon poing dans la gueule de celui qui me posait la question, parce que définir quelqu'un d'après ses origines, pour moi, enfin, dans ma génération, c'était insultant. Mes copains, les militants les plus pro-palestiniens, mes potes, ils étaient tous juifs, mais on les qualifiait jamais de juifs, et ça aurait été une insulte, et en plus de ça, ils en avaient rien à battre. Voilà la jeunesse dorée que j'ai eue. Je peux dire qu'elle est dorée aujourd'hui, parce que quand on voit ce qui se passe, comment ça pue du cul. Et puis dans les années 80, tout le monde s'est refermé sur sa communauté, justement. Mm-hmm. À mon avis, on a dû comprendre que la mondialisation, elle serait pas celle des hommes. L'international, ça va... que j'attendais quand j'étais minot, comme tous mes potes et tout, on était des potes 68ards, nous, bah, ça a été l'internationalisation de la finance.
Au lycée, vous êtes à coquiner avec des camarades trotskistes.
Oui, alors...
Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux ?
C'était organique. J'ai jamais lu Trotsky de ma vie, je savais même pas qui c'était. Je croyais que c'était un compositeur contemporain de Stravinsky. Mais ce jour où, dans ma terminale, je suis allé au grand lycée Ampère de Lyon, j'étais dans une petite annexe de quartier, c'était Ampère-Saxe, et il y avait une bande de gars, ils étaient beaux, les garçons étaient beaux, les filles étaient belles, les garçons, ils avaient des cheveux longs, ils avaient des petites lunettes cerclées d'acier, les filles, elles avaient des petits foulards, ça sentait le patchouli, ils avaient des mégaphones, ils avaient des drapeaux. Je ne comprenais rien à ce qui hurlait dans les mégaphones. C'est difficile de comprendre.
C'était une esthétique, Trotsky.
Non, c'était. Tout d'un coup, j'ai dit, c'est eux ma tribu. C'est viscéral. On peut pas. Et je me suis aperçu que toute mon adolescence, je m'étais emmerdé dans mon quartier un peu bourgeois de Lyon. J'avais trouvé mes frères. À un moment donné, quand vous trouvez votre tribu, ça passe pas par le raisonnement. Ça passe. C'est. Il y a quelque chose de. Et j'aime cette idée, au fond, de viscéral, parce que on dirait des codes aujourd'hui, mais c'est des couleurs, c'est une esthétique. L'initiation dans les tribus africaines, elle se fait à la fois par les vêtements que vous portez et par la musique. Moi, j'avais trouvé ma tribu.
Chez les Yoruba, notamment. Et oui, Dédé, on vous connaît, on a écouté toutes vos chroniques sur France Inter, et une sur deux, vous faites allusion aux Yoruba.
C'est de là que viennent toutes les rythmiques de la musique moderne. On va dire, c'est les champions des tambours, les tambours juju, qui sont devenus les tambours bata à Cuba. Mais on va pas recommencer.
Eh oui.
Vous avez qu'à aller écouter toutes les chroniques que j'ai fait chez Charline.
Et pas que, hein, aussi, les routes de la musique sur France Inter, ou votre chronique dans la matinale, André Manoukian. Par exemple, les percussions sur cet album, qui s'appelle La Sultane, elles viennent d'Inde.
Oui.
Vous parliez de tribu, André Manoukian. Vous êtes entouré de qui sur cet album ? De quel instrument ? Et est-ce qu'on va les retrouver sur scène ?
J'espère qu'on va le retrouver sur scène, parce qu'il est coincé à Delhi avec cette guerre à la con. Mmh. C'est un percussionniste, c'est un tablaïste indien. Pourquoi indien ? Parce que les Indiens sont les patrons du rythme. Très court, vous avez deux gammes en Occident, la gamme majeure et la gamme mineure. Vous avez 7 gammes en jazz. Vous avez 50 gammes au Moyen-Orient. Et en Inde, vous en avez 1000. Ça s'appelle des ragas. Et l'enseignement de la musique indienne, et pour les rythmes, c'est encore plus complexe, mais il se fait très naturellement en parlant. Vous voyez les phalanges des doigts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça fait des rythmes complexes. Mais ils font ça, mais tellement naturellement, parce qu'ils apprennent ça comme un langage. Le tabla, c'est, les sons sont tellement expressifs qu'on les nomme ta-ke-ti, ki-ta-ke-dun, ta-ki-te, Nadine. Alors, Nadine, elle l'a cherché, entre parenthèses. Et donc, du coup, pour un enfant, et c'est là que ça rejoint un autre sujet qui m'est cher, l'enseignement de la musique, comme on le fait en Occident, qui, à mon avis, est déplorable. Parce que quand on commence par le solfège à emmerder un gosse, c'est n'importe quoi. Mais ça doit se faire par les oreilles. Et eux le parlent. Donc, on va dire que les Indiens, c'est les maîtres absolus du rythme. Et je me suis régalé quand j'ai rencontré Mohsin Kawa. Et j'espère qu'il va avoir un billet bientôt pour pouvoir me rejoindre. Voilà,
ben
quoi.
Oui, on espère. Parce que oui. Vous produisez à Paris, à la salle Pleyel, le 28 mars. Donc, il va falloir se dépêcher.
Oui.
Vous passez à Pau juste avant. Vous passerez par Clichy-la-Garenne, Marseille le 31 mai, Lille ou Plougastel le 10 décembre. André Manoukian. Avec cet album, La Sultane, vous avez composé beaucoup pour les autres, révélé des chanteuses, dont Liane Folly, Camélia Jordana. À quel moment vous avez arrêté de vous cacher derrière les chanteuses pour enfin vous mettre en avant? Et c'est vous qu'on voit sur la pochette de l'album.
Waouh, c'est une bonne question. Moi, j'étais très bien planqué derrière. Quand vous accompagnez une chanteuse, tout le monde regarde la chanteuse, personne ne regarde le pianiste. Et c'est quand j'ai fait cette fameuse interview avec Marie-Claire Margossian dans son documentaire et qu'elle m'a posé cette question. Ça vous fait quoi d'être arménien? J'ai été obligé de chercher dans mon Gilles Deleuze de base. Un territoire ne vaut que s'il est quitté, le concept de déterritorialisation. Et je me suis dit, au fond, tous les exilés du monde sont porteurs d'un territoire immense qui ne mourra jamais puisque, encore une fois, un Italien à Rome, il se sent pas italien. Vous le foutez dans un meeting de Trump au Texas, il peut se sentir italien, quoi. Donc c'est vraiment, c'est heureux qui comme Ulysse. Et en plus de me poser cette question-là qui m'a fait un peu, qui m'a à la fois choqué en même temps, qui a été, à laquelle j'ai été obligé de répondre, à un moment donné, dans un coin, il y avait un piano, elle me dit, vous pouvez me jouer quelque chose d'arménien? Et là, j'ai dit, mais elle se fout vraiment de ma gueule. Alors pour moi, c'était, mais il y avait des caméras qui tournaient. Je me suis rappelé d'une berceuse que me chantait ma grand-mère Anouche, et j'ai joué ça à la main droite, à la main gauche, des accords un peu Bill Evans, un peu dépouillés, on va dire, un peu jazzy. Elle a arrêté les caméras, elle a dit, je veux ça pour mon, je veux cette musique pour mon film. Du coup, elle m'a demandé non seulement de témoigner, mais de faire la musique de son film. Du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai mis le nez dans la musique de mes ancêtres, qui pour moi était un folklore de, enfin, voilà, c'est comme si, vous venez de faire du jazz et vous êtes né à Rennes et tout d'un coup on te dit tu vas faire des danses bretonnes. Non, pas vraiment, c'est marrant, c'est sympa, c'est dans l'air pas de famille et tout. Mais quand j'ai mis le nez dans cette musique, j'ai découvert des trésors. J'ai découvert des nouvelles gammes, des nouveaux modes, des nouvelles couleurs. C'est comme si tout d'un coup on m'avait offert, alors que j'avais 3 ou 7 couleurs, on m'en offrait 50.
Mais ça veut dire qu'on vous a pas transmis ça dans la famille?
Pas du tout.
Même votre grand-mère?
Non, ma grand-mère, elle est morte, j'avais 6 ans. Et voilà, tout ce que j'ai eu d'elle, c'est des berceuses, en fait. Et c'est par une berceuse que j'ai commencé, qui s'appelait Inkala. Et dans cet album, il y a 2 berceuses. Aurore et Sorag. Le rossignol et puis Aurore, ça veut dire berceuse.
Ouais. Et Sorag, c'est une évocation de la guerre?
Oui.
À travers une berceuse?
Oui.
Avec une chanteuse arménienne, qui a une très 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 belle voix, c'est un magnifique titre que je vous conseille. Qu'est-ce qui raconte ce titre, qui est sous-titré Le Rossignol et le Faucon? On peut parler de la guerre en musique?
Quand j'ai commencé à jouer cette chanson, que Harpy Alto m'a dit, tu veux la chanter celle-là, tu veux, écoute-la, et je l'ai écoutée, j'ai dit, mais oui, on l'a fait. Je comprends pas assez l'arménien, donc je voyais pas de quoi ça parlait. Pour moi, c'était que la musique, et c'était tellement beau, avec sa voix de velours. Et quand j'ai mis le nez dans le texte et qu'elle me l'a traduite, j'ai fait « Ah ouais, d'accord ». En fait, c'est une mère qui essaye d'endormir son enfant. Son enfant ne trouve pas le sommeil. Alors elle convoque le rossignol, messager de la nuit, hein, comme dans Juliette et Roméo. Est-ce que c'est le rossignol ou l'alouette ? Non, si c'est le rossignol, c'est que c'est la nuit. Non, c'est l'alouette, merde, je dois me barrer. Mais ça marche pas, le rossignol ne vient pas. C'est une colombe qui vient. Mais la colombe, elle endort pas du tout l'enfant. Et tout d'un coup, il y a un faucon qui arrive et qui déploie ses vastes ailes. Et là, l'enfant, il se sent en sécurité et il s'endort. Elle dit beaucoup, cette chanson.
Moi, j'aurais vu un faucon, j'aurais flippé, je vous le dis tout de suite. J'aurais pris la colombe, moi.
Bah, ouais, mais la colombe, aujourd'hui, m'en parlez pas des colombes. Ouais.
Vous avez étudié la musique dans une prestigieuse école, André Manoukian, une école de jazz de Boston, Berkeley. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consistait cet apprentissage, la méthode ?
J'ai commencé le classique à 6 ans, mais comme tous les gosses qui commencent par le classique, quand j'ai voulu improviser, j'arrivais pas, j'étais coincé du cul. Pourquoi ? Parce que on vous apprend le classique en lisant. Mais c'est débile si vous réfléchissez 2 secondes. Comment un enfant apprend à parler ? C'est comme apprendre le solfège à un gosse avant qu'il touche un instrument, c'est comme si vous dites à votre enfant qui vient de naître, t'as pas le droit de parler, je te parlerai pas avant que tu ne saches lire ou écrire. Donc, je lisais la musique, je lisais Bach, je lisais Beethoven, je lisais Mozart. À 14 ans, je découvre Fats Waller, pianiste de ragtime, je dis c'est ça que je veux faire. Je le relève à l'oreille, mais à un moment donné, ça devient compliqué quand vous voulez faire des impros et que vous avez pas les règles. Donc, j'allais au Hot Club de Lyon, qui était juste en face de chez moi, je voyais des pianistes qui jouaient des heures entières. Il aurait fallu des bottins de partition pour transposer tout ce qu'ils jouaient. Et eux, ils avaient juste un ticket de métro avec écrit C7, FG. Une fois, j'ai pris mon courage à deux mains. Il y en avait un qui avait l'air sympa. J'ai dit, tu veux me donner des cours d'impro ? Il est venu, mais le gars, il savait pas quoi me dire. Au bout d'un moment, il m'a dit, bois du whisky. Bon, c'était 10h du matin. J'ai cassé ma tirelire et je suis parti à Boston. Et à Boston, on vous expliquait les secrets de l'improvisation, ils tiennent sur une ligne. Vous voyez une portée là ? Eh ben, oui. Ça tient là-dessus. Et je me suis dit, mais c'est criminel, pourquoi on n'apprend pas ça aux gosses ? En fait, vous montez la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, et vous avez un accord par note de la gamme. Do, mi, sol, si, ré, fa, la, do, mi, sol, si, ré, fa, la, do. Mais au piano, c'est facile, c'est que les notes blanches. Donc vous avez cette position, Charline, donnez-moi votre main. Mm-hmm. Voilà. Et puis vous la déplacez comme ça, de degré en degré. Et là, vous allez faire 7 accords, ok ? Maintenant, à la main droite, toutes les notes blanches, vous jouez n'importe quoi, et ben ça va sonner. Et au bout d'un moment, vous apercevez qu'une gamme, c'est un terrain de jeu. Voilà ce qu'on m'a appris à Boston. Mais heureusement, maintenant, on apprend ça chez nous, ici. Sauf que les cours de jazz, ils sont dans les conservatoires, dans les hauts niveaux. Et moi, je dis, c'est aux enfants qu'il faut apprendre ça.
Vous avez tellement raison. J'ai fait des années de solfège et de piano, mais comme j'ai pris l'apprentissage classique, aujourd'hui, j'en joue plus parce que je suis incapable.
Venez, Charline, venez, on va travailler.
Oh, je veux bien. Après, j'ai un petit grain de voix aussi. Hein.
Oui.
Vous savez, j'ai un petit... C'est... Oui, alors, je suis un petit rossignol, moi.
Oui, d'accord. On va laisser ton... Mets ton rossignol de côté.
Ok, on va se contenter du piano, ce sera voilà. Déjà pas mal, mais bien sûr. Et avant d'intégrer cette école, parce que vous dites j'ai cassé ma tirelire, la tirelire vous l'avez remplie en étant démonstrateur de synthétiseur dans un supermarché.
Ouais.
Je me suis dit, il y a vraiment des gens, ils viennent acheter une tranche de jambon, ils repartent avec un piano.
Ils partaient avec un orgue électrique.
C'est pas vrai.
Sans déconner.
Vous êtes bon vendeur.
J'étais trop fort.
Ça m'étonne tellement pas.
Je jouais toute la journée. Vous savez, c'était les orgues meubles avec des boîtes à rythme. Ça a fait fureur à un moment donné. Il suffisait d'appuyer sur une note et bim, ça faisait une rythmique. Moi, évidemment, à la main droite, je jouais plutôt bien. Et je disais aux gens qui passaient, regardez, allez-y, mettez votre note et faites n'importe quoi. Vous voyez, ça sonne. Et les gens, ils se barraient avec ça.
Ce que vous m'avez dit sur Berkeley, là,
ouais.
J'y pense maintenant. Vous avez traversé l'Atlantique, vous avez fait l'école la plus prestigieuse.
Ouais.
Et ça, tout ça pour apprendre que tout se passe sur une portée avec...
Ouais.
Ça paraît très très simple. Ça valait le coup d'aller jusque-là pour...
Oui.
On vous l'aurait dit à Paris, ce que vous m'avez dit là.
Alors non, évidemment que ça valait le coup, parce qu'en plus de ça, alors ça c'est la théorie, mais cette théorie après il faut la pratiquer. C'est-à-dire que ces gammes, il faut les travailler dans ces 12 tonalités. Et comme en réalité à Boston, on vous apprend que vous avez 7 modes par tona, ça fait 7 fois 12, 7 fois 2, 14, ça fait 84 gammes à choper quand même. Et puis surtout, vous avez l'émulation. Vous avez des gars partout, vous avez des practice rooms, des couloirs avec des pianos qui sont là, vous entendez que ça joue bien, vous rentrez, qu'est-ce que t'as fait toi ? Regarde, j'ai fait ça, parce que là-bas, il n'y a pas de... Ici, comme on était un peu pauvre, on va dire, dès que vous aviez un gars qui commençait à bien jouer, tu peux me montrer ton plan, On avait tendance à être un peu protectionniste. Là-bas, ça n'existe pas. N'importe quel que soit votre niveau, on rentrait dans un bar, on se faisait défoncer par un musicien qui, d'un coup, qui prenait un open mic et qui te fait un solo de saxophone. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens que parfois, on était dans les clubs le soir pour aller voir les musiciens. Je regardais ma montre, c'était 11h30. Je disais, il me reste une demi-heure du soir, il me reste une demi-heure de practice room. Je partais en courant parce que je venais de voir un truc qu'il fallait que je bosse. Cette émulation, elle est incroyable. Quoi. Ouais.
Pour autant, vous rentrez à un moment en France,
oui,
pour jouer dans les hôtels de luxe. Bah, il fallait bien croûter, quoi. Et ça vous a amené à jouer. C'est une légende, ça, ou ça vous a amené à jouer devant une partouze.
Non, c'est pas une légende.
C'est pas une légende.
C'est pas une légende. J'avais un groupe.
Ouais.
J'avais un groupe de jazz à Grenoble qui s'appelait Hornstuff. Avec six cuivres, c'était génial. C'est là que voilà, j'ai rencontré mes premières chanteuses. Bref, franchement, ça sonnait terrible. Un jour, il y a un agent qui nous fait venir pour accompagner un grand gala au Théâtre de l'Empire présenté par Jean-Claude Brialis, il y a bien longtemps. Et il nous dit, comme vous venez de province, demain vous aurez un cacheton dans un club. Nous, club, ok, club de jazz. On arrive avec nos smokings. Putain, la tronche du club de jazz. Alors les gens étaient chics, hein, ils étaient en smoking, les filles en robe longue. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais il y a une attraction là-bas, il y a de la lumière blanche et tout. Alors j'écarte la foule qui regarde, j'ai dit, ça doit être un prestigitateur. Et là, tout d'un coup, je me suis mis à hurler, ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est le provincial qui débarque dans une partouze en jouant John Coltrane. C'est un bon souvenir quand même. Ouais. Enfin.
Oui.
Oui.
Et fort de tout ça.
Oui.
Aujourd'hui, la sultane. La Sultane, titre éponyme de l'album d'André Manoukian, choisi par Djoubaka, notre programmateur musical. André Manoukian, pianiste, compositeur, est avec nous dans Bistroscopie aujourd'hui. André, on a évoqué vos origines arméniennes, les questions que ça faisait travailler chez vous. Vous expliquiez qu'on ne vous a pas tellement transmis cette musique qu'aujourd'hui vous transmettez, vous. Donc aujourd'hui, vous la transmettez, mais même aussi à vos enfants.
Alors les enfants, c'est plus compliqué parce que je les ai dégoûtés tous les trois de la musique. Mais ils font leur chemin.
Mais non.
Mais si. Moi, quand j'étais petit, mon père, il jouait Bach, mais mal. Donc c'était prenable. Moi, eux, depuis qu'ils sont gamins, ils entendent... Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma fille, quand elle montait dans la voiture, elle me disait, arrête ton jazz, ça me donne envie de vomir, papa. Donc, au bout d'un moment, on accepte ça, puis voilà. Mais j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, peut-être que en allant sur ce terrain-là, c'est-à-dire en allant chercher la musique de mes ancêtres arméniens, je me suis rendu compte d'une chose, qu'en réalité, la musique orientale, c'est pas simplement la musique de mes ancêtres, c'est l'ancêtre de toute la musique occidentale. Toute la musique occidentale vient d'Orient. La construction de notre musique occidentale, je parle de la musique classique, n'est qu'une longue désorientalisation de la musique. Retour en arrière, on va dire qu'on est en 150 après Jésus-Christ, à Lyon. Si M. Bolloré rentrait dans une église, il dirait « ça y est, le grand remplacement est arrivé ». Enfin, ça doit être son rêve quelque part, j'imagine. Parce que ce qu'il entendrait dans cette église serait des chants furieusement orientaux. Et aujourd'hui, si on voulait entendre les chants chrétiens tels qu'on les chantait chez nous en Europe au début de l'ère du christianisme, on pourrait aller en Éthiopie, par exemple, ou chez les Coptes, ou chez les Coptes d'Égypte, ou chez les Coptes de Syrie.
André Manoukian, dans la transmission, vos grands-parents arméniens qui ont fui en 1915, ils vous ont pas tellement raconté l'exil. La transmission dans votre famille, c'était plutôt... Il y avait plutôt un non-dit qu'une transmission de tout ça ?
Oh là là, c'était même pas un non-dit, c'était une chape de plomb dessus. Enfin, c'était un silence total. C'était pas un déni non plus, c'était... On n'en parle pas, on avance. On est là pour reconstruire. Mon grand-père a une... Il s'est fait enrôler par l'armée turque pour se battre contre les Russes. En 1915, prisonnier par les Russes, déporté en Sibérie. Il s'évade en Chine, repris, retour au bagne, révolution 17. Il s'évade, il rentre chez lui, il se fait prisonnier par les Turcs. Il s'évade, il se bat avec les Russes contre les Turcs. Il s'installe à Smyrne avec ma grand-mère, qui retrouve, qui elle avait été déportée en Syrie. Et là, c'est la prise de Smyrne par Atatürk en 22. Et là, il se bat cette fois-ci avec les Grecs contre les Turcs.
Mais ça, comment vous l'apprenez ? Parce que ça semble précis maintenant.
Des bribes que patiemment j'arrachais à mon père pendant nos randonnées alpestres. Mmh. On aime la randonnée dans la famille parce que comme ma grand-mère, elle a fait 1000 km à pied pendant le génocide, je dis c'est pour ça qu'on aime la randonnée. Et bref, mais j'y allais doucement. C'était... Tout ce qu'il me racontait, c'était comme une mosaïque. Je l'ai reconstitué. C'était toujours des histoires qui avaient une morale, malgré tout. Comme le jour où ma grand-mère, elle a pris la tête au commandant turc du convoi qui la déportait, parce qu'il faisait sa prière 5 fois par jour, c'était rare à l'époque. Elle lui dit, mais tu es un homme pieux, au nom de ta foi, comment peux-tu laisser se passer ces horreurs ? Il s'arrangeait pour me transmettre toujours des choses qui pouvaient servir. C'est-à-dire parler le langage de l'autre pour se faire comprendre. Ça, c'est typiquement arménien. Parfois, j'aimerais être un peu plus turc qu'arménien, je vous jure, Charlie.
Vous avez essayé d'écrire tout ça ?
Je suis en train. Je suis en train de rassembler tout ça, parce que lui, il a essayé. Et puis,
mon père a essayé.
Et chaque fois qu'il faisait, à notre demande aussi, on était tous là, vas-y. Parce que c'était la seule mémoire de la famille, c'était le plus vieux et tout, et tous les cousins, partout, toute la tribu. Et puis un jour, ma mère a poussé la porte de son bureau, il était en train de sangloter. Elle a pris son carnet, il avait un cahier d'écolier où il écrivait. Elle a déchiré en disant « ça suffit tes conneries ». C'est bon, on va pas se rendre malade non plus. En gros, ma mère était la joie et mon père, il était le labeur. Personne n'a insisté parce qu'on voyait que ça le mettait dans un tel état. Et moi, patiemment, j'ai tiré le fil, j'ai enregistré, j'avais des petits magnétos à cassette. Et récemment, j'étais obligé d'acheter, de retrouver ces magnétos-là parce que pour écouter tous ces témoignages. Et j'ai pensé que ça me ferait un peu mal, mais je me tapais des barres de rire parce qu'il avait l'art de raconter en même temps. Bon, vous avez compris que quand je commence une phrase, je finis le lendemain, je tiens ça de lui. Et en même temps, il partait dans des fous rires en racontant des trucs qui pouvaient paraître un petit peu insensés.
Et ce mélange, André Manoukian, ça donne le Juristar de La Nouvelle Star. Autre époque avec Marianne James, le producteur d'Ovatia, le batteur Manu Katché. C'est vraiment l'émission pionnière du télécrochet, du retour du télécrochet, mais présenté par Virginie Efira sur M6, et qui a vu émerger Julien Doré, Camélia Jordana ou Christophe Willem. Ça a été comment l'avant et l'après, la nouvelle star pour vous ?
Alors, je dirais, heureusement, cette célébrité est apparue tard pour moi, donc ça m'a pas du tout changé mon psychisme.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 48 ans. Et puis surtout, j'avais connu le succès dans l'ombre, et c'est vachement plus sympathique. Parce que quand j'étais avec Liane Folie, puis qu'elle allait prendre les croissants le matin, puis que le boulanger disait « Oh là là, vous êtes bien comme ça, vous étiez moche par contre hier à la télé et tout. Ouais. » Votre robe, alors qu'elle s'était emmerdée pendant un mois, essayer d'être styliste et tout. Bref, moi, c'était sympa d'être épargné un petit peu. C'est vrai que je pense que si j'avais pas été un peu vu à la télé, c'est plus facile d'avoir des rendez-vous avec le maire de Chamonix, par exemple, quand vous dites « j'ai envie de faire un festival ». Et tout ça.
Le
et
Cosmo puis, Jazz, l'été.
Mais ouais.
À l'époque, vous avez zéro filtre. Vous dites à une candidate que sa prestation, sans trop le savon et passer la foufoule...
Alors, un candidat.
Ah,
j'aurais jamais dit ça.
Ah oui, c'est vrai, c'était un candidat. Ah, oui. La presse a... j'ai relu la presse de l'époque.
Ouais.
Faut bien préciser que non, c'est non, un, non. Parce que c'est souvent écrit une.
Non. Personne ne nous a jamais tempéré. Mais je pense que à l'époque, c'était entendu comme une parole libre. On va dire, on disait des gros mots, on parlait de cul, parce que ça fait un peu partie aussi, je dirais, de la musique. Et tout d'un coup, c'était pour les 20 ans de la nouvelle star, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, quand on a vu, nous on était là, Marianne, Dove, Manu, quand ils ont passé les extraits, qu'on a vu ça, mais on était choqués de ce qu'on disait. Et ce qui est super bon signe, ça veut dire qu'en très peu de temps, on a chopé les codes d'une parole qui doit être fatalement asexuée. Sauf que à l'époque, c'était presque branché.
Tout passe par le son chez vous, André Manoukian. Vous avez un rapport capillairement érectile, je dirais, aux voix graves de chanteuses. Vous arrivez à dissocier le désir créatif et le désir amoureux, c'est possible,
ah ouais.
Ça
ah bah ouais. Oui, ça n'a rien à voir. La sphère de la musique, c'est très près de la sphère de la spiritualité. C'est plus haut que l'amour entre... C'est une énergétiseuse qui m'a dit ça. J'allais me faire soigner quand je me suis fait larguer par ma dernière chanteuse et elle me dit... Je lui dis, enlevez-la moi de la tête. Elle me dit, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier chanteuse ? Ah, c'est impossible. Je dis, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que la sphère de la musique est au-dessus de la sphère de l'amour. Aujourd'hui, j'ai découvert une chanteuse de jazz incroyable et je m'aperçois que je peux évidemment tomber en amour avec la voix sans avoir tout le reste, parce que le reste, c'est bon, j'ai donné déjà. Enfin, tout va bien. Vous savez, le plaisir d'échanger musicalement entre deux musiciens, trois musiciens, quatre musiciens, cinq musiciens, des musiciennes, il est d'un érotisme incroyable. Même peut-être plus fort que les rapports qu'on peut avoir quand on fait l'amour. Parce que là, vous échangez des choses, vous vous répondez, vous vous grimpez dessus. Et je crois que j'ai toujours été assez libre de parler de ça. Et ne pas parler de ça, c'est enlever la moitié de la substance de la musique. Et ce plaisir-là que parfois certains disent « Ouais, les jazzman, on a l'impression que voilà, vous vous faites plaisir à vous, sous-entendez, vous vous masturbez entre vous et vous nous laissez. » Non. Si vous assistez à un concert de jazz, vous faites partie du process. Et si le public est là, ça marche pas non plus. Alors après, je veux pas dire qu'on est des exhibitionnistes et qu'on fait l'amour devant les gens, mais il y a quelque chose, encore une fois, qui est supérieur à cette sphère de l'amour entre les êtres humains.
Et dans le monde qui éclate de partout, dans le chaos qui nous entoure, alors c'est... La solution, elle est là avec vous, bien sûr. Est-ce que... Notre arme, c'est la musique, face à ça ?
Je dirais que moi, c'est mon premier geste le matin. Et franchement, ça me remet la tête et le cœur à l'endroit. Parce que tout d'un coup, vous touchez à quelque chose d'intemporel. Si il fallait analyser ce qui se passe aujourd'hui, en essayant de prendre un maximum de recul, parce que sinon, on se flingue, je dirais qu'on est en train d'assister au dernier soubresaut de ce que l'humanité elle a de plus dégueulasse, quoi. C'est la fin des dinosaures. C'est pour ça que les dinosaures, ils sont blessés et ils font du mal et tout ça. Quand vous jouez pour quelqu'un, vous rentrez en contact avec son âme d'une certaine manière. Et tous les festivals dont je m'occupe, très souvent les musiciens viennent d'Orient. Quand je fais venir le trio Joubran et que les gars ils me prennent et qu'ils me disent « t'es mon frère », quand je fais venir Yaron Herman, qui est un pianiste israélien et qui embrasse les gars, je me dis, la musique, c'est le seul endroit où on peut tous se parler, quoi. On dépasse ce truc et on partage, au fond, la même musique. Est-ce que les dolmas, les feuilles de vigne farcies sont turques, grecques, arméniennes ou kurdes? Mais on s'en branle. C'est vachement bon. Bouffons ça sans savoir qui... Voilà, à la base de qui, c'est... La musique, c'est le dernier truc qui nous relie. C'est peut-être la dernière religion au sens étymologique du terme. Religuer, relier les gens.
André Manoukian, on va se relier en écoutant votre magnifique album La Sultane, avec des titres comme Dancing Jean, Spanish Fugue ou Armenian Flower, bien sûr. Et puis vous êtes en tournée, en concert à Paris à la salle Pleyel le 28 mars. Vous placez aussi par Marseille le 31 mai, Lille, Plougastel ou Clichy-la-Garenne. Merci André Manoukian.
Merci Charline, que ça m'a fait du bien de vous revoir.
Tant de douceur et d'harmonie avec vous. Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci beaucoup à Ophélie Vivier, chargée de programme. Merci à Étienne Bertin à la réalisation. Stéphane Foulon à la prise de son avec au mixage Loïc Frapsos. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous serons à Lille avec Sofiane Zermani, alias Fianso. On va enregistrer vendredi à 14h au Théâtre du Nord. Venez nombreux, je vous attends. C'est en public, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Festival Sérimania.